Après cette introduction de Marie-Hélène, qui a très bien présenté ce qui nous rassemble aujourd'hui, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Comment j'ai vu cela arriver au fur et à mesure dans ma pratique de praticien de la psychanalyse d'orientation interne? Je dirais qu'il y a eu des vagues successives de travailleurs en souffrance. Chaque vague amenant des professionnels d'un autre secteur d'activité. Et ce, sans qu'aucune vague ne cesse son déferlement. Il y a d'abord eu les employés des entreprises de ce qu'on a coutume d'appeler le grand capital, type Orange. J'ai rencontré certaines de ces femmes qui étaient changées de poste tous les 6 mois avec peu ou pas d'animation jusqu'au jour où tombait le fatidique « Vous êtes incompétente, madame ». Puis il y a eu les agents de la fonction territoriale. Je pense à cette secrétaire qu'on avait mise dans le recoin d'une pièce qui servait de passage entre 2 bureaux, ce qui faisait que quand la porte était ouverte, personne ne savait que quelqu'un travaillait derrière cette porte. Après force brimade, elle s'est retrouvée à faire uniquement des photocopies. Je l'avais mise en arrêt maladie et pendant cet arrêt, elle fut convoquée par sa DRH. Qui lui a dit, mais madame, pendant votre congé maladie, il vous est interdit de voyager. Stupéfaction de la patiente, qui répond que non, elle n'a pas voyagé, mais si madame, votre camping-car n'était plus dans votre jardin. Elle avait prêté son camping-car à son fils et elle a fait quelques temps après que la DRH avait demandé à la police municipale de repérer tout changement survenu chez elle. Le travail entrepris lui permet de retrouver goût à la vie et désir, et remarquant que 2 autres femmes étaient également en souffrance, elle fit en bloc et obtint 6 mois après le licenciement de cette DRH. Puis ce fut le tour des employés du secteur médico-social et éducatif. Et j'ai vu ça arriver depuis une 15aine d'années. Mais je dirais que si je présente ça par vague, c'est parce que j'ai eu l'impression que des secteurs étaient au fur et à mesure menacés les uns après les autres. Personne n'était épargné, ni les éducateurs, ni les psychologues. Les exemples sont nombreux, et comme nous tenons beaucoup au travail particularisé, j'évoquerai seulement ce psychologue travaillant dans une institution pour enfants, et qui était obligé de garder une durée fixe les enfants qu'elle avait en thérapie. Il n'était pas possible, en fonction de ce qui se passait dans la séance avec l'enfant, de raccourcir ou de prolonger la durée de celle-ci. Alors que nous savons que la coupure d'une séance a toute son importance. Les enfants devaient entrer et sortir à heure fixe de son bureau. Cette jeune femme, dotée par ailleurs d'une très belle voix, décida de se faire entendre ailleurs. Sa voix, pas son travail de psychologue. Donc, une autre orientation de sa vie. Nous, les soignants de ces personnes en souffrance au travail, allions-nous y échapper? Lors d'une journée passée récemment dans un service du CHU, j'y croise une infirmière que je ne connaissais pas. Et d'emblée, elle me dit, je m'appelle Audrey, je suis infirmière, mais aujourd'hui je suis aide-soignant, car il m'a manqué dans le service. J'ai de la chance, c'est pas un service dur. Je suis une de ces infirmières obligées de me rendre dans les services où on me demande d'aller. J'ai des amis qui se retrouvent paniqués en réa pédiatrique, ou d'autres horrifiés en oncologie pédiatrique, alors qu'elles ne voulaient surtout pas travailler dans ces services. Nous ne pouvons pas refuser. Avec ce système, on ne peut plus vraiment connaître les malades. Évidemment, j'ai immédiatement pensé à cette infirmière qui s'est suicidée au Havre après avoir été mutée dans le service de réanimation pédiatrique, je crois. L'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, place les professionnels du soin parmi les plus exposés à la souffrance au travail. Ne croyez pas que les médecins soient négatifs. Il y a 2,5 plus de suicides chez les médecins que dans la population générale. On commence un peu à s'alarmer dans les sphères décisionnelles depuis le suicide d'un patron cardio à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. D'autant plus qu'on fait semblant, je dis bien on fait semblant, de découvrir à ce propos, le harcèlement auquel certains sont soumis et l'omerta qui règne dans les hôpitaux. Et vous savez ce qui est proposé? Il leur est proposé d'appeler un numéro vert national où ils seront connectés à une plateforme d'écoute. Vive le soin. Qui se rappelle la loi de d'Anicet le corps du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires? Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés du harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et compromettre son avenir professionnel. Ça semble bien oublié. La psychanalyse, au titre de ce qu'elle sait de la condition du sujet parlant, peut-elle s'intéresser au lien social dans lequel tout sujet se trouve pris? Je citerai à ce propos une phrase de Lacan dans sa télévision. Il est certain que se coltiner la misère du monde, c'est entrer dans le discours qui la conditionne, ne serait-ce qu'au titre d'y protester. On nous propose un savoir qui aurait une place dominante, savoir qui s'appliquerait à l'objet d'étude, par exemple les bonnes pratiques médicales, bonnes pratiques qui sont élevées à la hauteur d'objets dignes de connaissance, ce qui tend immédiatement à restreindre le champ d'exploration. Il s'agit d'inculquer à l'autre un savoir apparemment neutre. C'est l'hégémonie de la connaissance. Ce type de discours oublie qu'en face de vérité se trouve le maître. Derrière tous les efforts pour inculquer un savoir apparemment neutre à l'autre, se loge une tentative de maîtriser l'autre par l'intermédiaire de ce qui lui est appris. Le maître est garant du formalisme, il impose la référence. Il ne s'agit pas ici de mettre en cause l'activité scientifique, mais le scientisme qui est une idéologie. Ainsi, chacun serait contraint de n'avoir d'autre possibilité que d'adhérer à ce discours comme si sa contestation revenait à méconnaître les découvertes de la science. Les soi-disant sciences du soin ne cessent d'user de cette pression pour s'imposer avec force tant auprès du public non averti que des professionnels de ces secteurs. La psychanalyse, son objet comme son dispositif, ne sont pas ceux de la sociologie. Elle se pratique au singulier. Mais elle ne saurait ignorer la prévalence de tel ou tel discours. La demande qu'on lui adresse en porte forcément la marque. On se rappelle de Freud disant qu'il avait apporté la peste en Amérique. Mais l'Amérique avait accepté d'embrasser la psychanalyse pour mieux l'étouffer. Cette tentation est permanente. À quoi cela tient-il finalement? À peu de choses en fait. Au fait que ça ne colle pas, ça cloche. Il y a toujours un hiatus, une surprise, ça laisse à désirer. Et notre société n'aime guère ces écarts, aussi petits soient-ils. Tout au contraire, presse les références à la gestion, la normalisation, l'application du savoir, souvent défini comme celui des experts, qui génère une sorte de fétichisme de la prévision et de l'évaluation. Les êtres parlants souffrants viennent nous rencontrer quand ça cloche pour eux. C'est une pratique de la rencontre qui ne se centre pas sur l'idéal social, pas sur l'intégration, pas sur la normalisation, mais sur l'écoute du sujet, sur ses solutions inédites. L'analyse devient au cours de la cure la cause du désir de l'analysant. lequel découvrira que le savoir de son propre désir n'est pas à proprement parler détenu par l'analyste. L'analyste n'est pas en position de pouvoir ou de savoir universitaire, en ce sens, sa position est subversive. Je vous remercie.